Un invité, une âme qui veille, celle du poète, romancier et calligraphe François Cheng qui signe enfin Le Royaume, recueil de quatrains, cette forme irréductible et complexe, diamant et architecture qui dit l'Orient et l'Occident.
Poésie et ainsi de suite par Manu Farid.
Et c'est jusqu'à 16h. François Cheng, bonjour, merci de nous accueillir pour cette émission tout entière calée sur votre souffle, disons, une heure avec vous, ici, dans les bureaux des éditions Gallimard, à Paris, et comme ça tombe bien, ces mêmes éditions publient enfin Le Royaume, 155, je crois, si je les ai bien comptés, 155 quatrains, et des silences, 155 fois 4 vers, posés en italique au centre d'une et une seule page, et l'un d'eux dit ceci: ici la gloire, oui c'est ici que d'années nous avons appris à nous sauver par le chant, homme, qui nous conduit au vrai royaume. Alors avant de parler de cette forme resserrée, de cette forme complexe, ce diamant, dites-vous, qui est le quatrain pour vous, François Cheng, à l'écoute de celui-ci, celui que je viens de lire, on entend beaucoup, si ce n'est l'essentiel, on entend le chant, on entend homme, AUM, l'âme, dont vous avez esquissé les contours dans un essai paru il y a peu, il y a très peu de temps chez Albin Michel, et qui reparaît couplé à vos méditations sur la beauté et méditations sur la mort. Et puis on entend aussi gloire et on entend royaume. Ce quatrain-là, qu'est-ce qu'il pourrait bien dire de ce qui lie enfin le royaume, votre présent recueil, et puis le recueil précédent paru en 2015, titré « La vraie gloire est ici », entre la gloire qui ouvre ce quatrain et le royaume qui le ferme.
Le titre du dernier recueil, « Enfin le royaume », c'est comme, ça vient comme une sorte d'écho au précédent recueil, pas seulement un écho, et presque une forme de affirmation un peu définitif, à ma manière, vu mon grand âge, je ne sais pas si j'aurai d'autres possibilités de publier d'autres recueils. Toujours est-il que, parvenu à ce recueil, je sens que je suis au bout de quelque chose, au bout d'une itinérance. Oui.
C'est ce qu'il faut entendre dans le recours au mot « enfin ».
Voilà. Et puis, le mot « royaume », je ne veux pas dire que notre gloire d'être un être humain sur cette terre se limite à l'ici et maintenant, mais je voulais déjà affirmer que c'était d'ici et maintenant que la gloire commence. Et quand je parle de royaume aussi, je ne voulais pas dire que notre royaume se limite à l'ici et maintenant. Au contraire, j'ai en vue ce que Rilke appelle le double royaume de la vie et de la mort. Donc, quand je parle de royaume, c'est un royaume qui ne se limite pas à cette dimension terrestre. Peut-être je peux commencer déjà à parler, pour moi, qu'est-ce que c'est la poésie? Le langage, on sait que a pour fonction de nommer les êtres et les choses et ce qui se passe entre les êtres et les choses. Mais à son plus haut degré, ce langage s'est transmué en un chant essentiel. Donc la poésie, ce chant, il signifie par métaphore et par symbole, et il révèle le mystère des choses par une sorte de chant qui résonne pour un chinois, qui résonne au souffle rythmique qui anime de l'intérieur toute chose. Ça, c'est la vision chinoise des choses. Il y a le souffle rythmique qui anime en ce moment même nos présences ici. Donc, la poésie, c'est un langage transmué en chant, résonne à ce souffle rythmique et par là nous permet de communier en profondeur avec l'univers vivant. Donc ce chant qui résonne, donc cette résonance de la poésie, efface les frontières entre la vie et la mort. Parce que la poésie, avant tout, une vocation orphique, c'est-à-dire tout vrai poète doit être un orphée qui,
pour vous en tout cas,
qui sillonne au sein de ce que, encore une fois, Rilke appelle le double royaume. C'est-à-dire il n'y a pas de séparation entre la vie et la mort. Donc ça revient à mon idée de royaume. Il y a l'ici et l'au-delà aussi, oui. Et la poésie, comme en tant que langage, a pour mission de assurer cette liaison entre les deux royaumes, oui, de la vie et de la mort, oui.
C'est peut-être ce que vous dites, François Cheng. C'est peut-être aussi exactement ce que tente de faire ou ce que fait T.S. Eliot dans ses quatuors, dans ses quatre quatuors. Peut-être qu'on va en entendre un extrait, l'extrait du premier quatuor, justement, qui fait précisément écho à ce que vous venez de dire.
Time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past. If all time is eternally present, all time is unredeemable. What might have been is an abstraction, remaining a perpetual possibility only in a world of speculation. What might have been and what has been point to one end which is always present. Footfalls echo in the memory, down the passage which we did not take, towards the door we never opened into the rose garden. My words echo thus in your mind. But to what purpose? Disturbing the dust on a bowl of rose leaves, I do not know.
C'est la voix de T.S. Eliot qu'on entendait, donc c'est le début
du premier
quatuor, qui sont donc ses poèmes tardifs, hein, parus en 1943. Donc
tout à fait.
Sa dernière écriture, et qui j'imagine...
Qui m'a profondément marqué aux sorties de la guerre. Hein, c'était, je pense qu'il a composé ça... à la fin de la guerre ou après la guerre.
Alors oui. Celui-ci, non, le premier poème, il l'a écrit celui-ci dans les années 30, je crois, mais c'est paru en 43.
Ah oui, 43, vous voyez, c'est ça, oui. Au plus fort de la guerre, oui, oui. J'avais 14 ans. À l'époque, bien sûr, je ne connaissais pas Eliot, mais à 15 ans, je me suis ouvert à la poésie. À 15 ans, c'est très précis, puisque j'ai mon premier texte que j'ai gardé toujours avec moi. C'est presque la seule chose que j'ai rapportée de Chine quand j'ai quitté la Chine. Donc j'ai la date précise de mon éveil à la poésie. À l'époque, bien sûr, on lisait les poètes classiques, hein, c'est Byron, Shelley, du côté anglais, hein, Keats, Tennyson. Mais en 45, c'est la fin de la guerre, et en 46, les poètes chinois ont commencé à traduire Eliot en chinois. Donc, c'est par Eliot que j'ai accédé à la poésie moderne, si je peux dire.
Vous parliez tout à l'heure, François Cheng, du chant, hein, du poème comme chant et du chant comme poème. Et vous dites, avec le temps, être de plus en plus proche d'un état de chant, vous-même. Qu'est-ce que ça voudrait dire exactement ? Par quoi est-ce que ça passe, cet état-là ? Par l'investissement de la langue, est-ce qu'il a fallu attendre ou qu'est-ce qu'il a fallu attendre pour atteindre cet état de chant ?
J'étais avant tout un auditif. C'est par la suite que je suis devenu un peu visuel depuis mon séjour en Occident, surtout en Italie. J'ai couru les musées et donc là, ça a été une éducation pour mes yeux. Mais avant cela, j'étais avant tout un auditif. Donc, la qualité musicale des choses m'était tout à fait sensible. Et quand j'ai commencé à apprendre le français, donc c'est avant tout sa musique aussi qui m'a attiré, qui m'a fasciné. Ce n'est pas plus tard que j'ai eu cette conscience de la poésie en tant que chant. C'est pratiquement dès le début, puisque Ma poésie en français a commencé justement par un quatrain. Nous avons bu tant de rosée en échange
qui,
de notre
qui figure
sang,
dans ce recueil. Hein.
Qui inaugure ce recueil. Mais ce poème a été écrit en 58, il y a exactement 60 ans.
Alors, pardonnez-moi, je vous coupe, François Cheng, excusez-moi, c'est juste pour effectivement lire ce quatrain. Vous écrivez « Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang que la terre, 100 fois brûlée, nous sait bon gré d'être vivants. »
Tout à fait. Et donc, vous venez de m'évoquer le chant que j'ai atteint à cet grand âge. Hein. Donc, ça rejoint encore une fois le début, hein, le premier jaillissement de ma poésie en français, encore une fois. Donc, il y a c'est un cycle de 60 ans. Hein. Pour moi, personnellement, il y a quelque chose de terriblement émouvant et étonnant presque, puisque je suis là, alors que je n'étais pas un être destiné à vivre longtemps, mais je me trouve devant vous, hein, 60 ans après ce premier quatrain. Hein, donc là, il y a quelque chose de profondément révélateur un peu. Dieu m'a prêté vie jusqu'à maintenant, donc qui m'a permis justement de revenir au quatrain.
Alors, avant d'en venir justement, évidemment, à ce choix du quatrain, je voudrais revenir à ce que vous venez de dire, François Cheng. D'où vous venez cette certitude de la proximité de la mort?
Comme vous le savez, hein, je viens de ce qu'on appelait le tiers-monde. Donc, tout ce qui vient du tiers-monde a une connaissance intime avec la mort, puisque chacun de nous a traversé 1000 morts. Hein. Il y a les conflits, les épidémies, des conditions de vie éprouvantes. Et par la suite, bien sûr, j'ai lu, comme vous, hein, comme tout le monde, Rilke, n'est-ce pas, qui a dit qu'il faut que chacun essaye de connaître sa propre mort, parce qu'en réalité, hein, j'ai écrit un livre de méditation sur la mort. J'ai compris que nous n'avons de sens de la vie. Nous n'avons de l'élan vers la vie que par la conscience de la mort. Donc la mort est la partie la plus intime et la plus dynamique de notre vie. C'est cette mort, cette perspective de la mort qui est là pour que chaque jour, lorsque on se lève, tout d'un coup, on voit avec étonnement cette vie qui s'offre, n'est-ce pas? D'ailleurs, un de mes quatrains a dit éternel adieu à tout moment, éternel bonjour à chaque instant. C'est cet adieu qui nous permet de dire bonjour à chaque instant. Oui.
Il y a une voix que je souhaitais vous faire entendre, alors je pensais qu'on l'écouterait un petit peu plus tard, mais j'imagine qu'elle s'impose ici, et cette voix, c'est celle-ci.
La mort! Et du domaine de la foi! Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire?
Alors, c'est la voix de Lacan, bien sûr. On est en 72 à l'Université catholique de Louvain. Alors, a priori, rien ne semble plus éloigné de vous, François Cheng, que ce qu'on entend là, hein, que ce soit évidemment l'idée que ça finira hein, l'idée de cette finitude, que ce soit le théâtre, que ce soit cette violence qu'on entend hein, dans la voix de Lacan. Pour autant, vous pourriez faire vôtre cette phrase « La mort, ça vous soutient ».
Ça revient à mon idée de la mission du poète comme Orphée. Hein. D'ailleurs, Mallarmé a dit que finalement, la poésie, c'est une tentative d'explication orphique de notre destin terrestre. Il y a une possibilité de transformer la nature de la mort. La seule possibilité, c'est l'amour absolu. C'est un peu ce que le Christ a fait. Parce que pour prouver l'amour absolu, il faut la mort. Je cite le Christ, ce n'est pas au nom d'une croyance, hein, on peut ne pas, mais c'est un exemple qui est arrivé. Hein, donc je me permets de le citer.
Simplement pour clore la parenthèse Lacan, qui est arrivé un peu comme ça, sorti du chapeau, peut-être qu'il faudrait rappeler que Lacan, avec Barthes, avec Kristeva, et de ces rencontres qui ont été déterminantes pour vous, à la fin des années 60, au début des années 70. Alors je dis Lacan en particulier parce que je crois que vous avez travaillé avec lui. En tout cas, il a eu recours à votre expertise, hein, notamment en matière de poésie et de peinture chinoise. Qu'est-ce que vous leur devez à tous ces gens-là, c'est-à-dire à Kristeva, à Barthes et à Lacan en particulier?
À ce moment-là, on était en pleine explosion du structuralisme et de la sémiotique en France. Moi-même, un jeune homme un peu perdu, je ne savais pas où donner de la tête. Et donc, avec Lacan, tout d'un coup, quelque chose s'est concentré, s'est cristallisé, parce que il étudiait des grands textes chinois avec moi. Il a une manière d'interroger les textes, de creuser les textes, au lieu de rester en surface. Donc, ça m'a obligé de m'interroger sur chaque ligne, chaque mot. Et c'était un travail exténuant, mais tout à fait enrichissant. Et donc, au sortir de là, je me suis lancé dans l'étude du langage poétique chinoise. Et donc, j'ai quitté Lacan en 71, 72, et je me suis mis en retraite pour rédiger cette étude de l'écriture poétique chinoise qui a duré plus de 5 ans. Lorsque le livre a paru, je me suis retourné vers Lacan pour lui offrir ce livre. Et c'est à partir de là que Lacan m'a lancé sur la voie proprement poétique, d'abord par des études et par la suite par mes créations personnelles. Hein. J'ajoute, Lacan, bien sûr, m'a guidé dans la manière de dévisager les textes, mais aussi en tant que psychanalyste. En même temps que ce retour au texte, c'est aussi un retour à ma propre vie personnelle, hein, chargée de conflits, de remords, d'interrogations, de tourments. Et Lacan, justement, m'a fait comprendre qu'au lieu de fuir tous ces éléments par une sorte d'oubli ou d'indifférence, au contraire, il faut accepter cela, tous ces, comment dire, drames intérieurs, et d'en faire les aliments mêmes de ma création. Hein. Oui, c'est...
Qu'on retrouve François Cheng, évidemment, dans ces quatrains, hein, dans ce recueil de quatrains qui vient de paraître. C'est donc la forme que vous avez choisie, donc une forme avec une histoire, bien sûr, hein, de celle qui traverse la poésie classique chinoise, évidemment, la poésie occidentale, bien sûr, mais on peut penser aussi à Rayam, par exemple, au quatrain de Rayam. Choisir le quatrain, est-ce que c'était aussi choisir ça, c'est-à-dire une forme capable de tout joindre, hein?
Tout à fait, parce que le quatrain est un mystère, parce que d'abord, le quatrain est une des formes majeures de la poésie classique chinoise. C'est très célèbre. Et du côté de l'Occident aussi. Donc il y a quelque chose d'universel. Le quatrain est une forme qui existe dans la tradition occidentale en tant que forme en soi. Et puis chaque strophe d'un poème plus long est faite de quatrains, comme naturellement. Et donc pour moi, sous peine de répétition, je dis que le quatrain est le diamant de la poésie universelle. Parce que le quatrain, tout en étant une forme concentrée, possède un contenu aussi complexe qui permet, comme un diamant, hein, qui permet au quatrain de rayonner de tous côtés. Hein. La rhétorique chinoise conçoit le quatrain comme une dramaturgie à quatre temps. Il y a le premier vers qui est l'exorde, le deuxième vers est le développement, et le troisième vers doit marquer un tournant ascendant. Et le quatrième vers doit aboutir à une autre dimension qui nous offre une perspective ouverte. Le quatrain ne doit pas être un système clos, doit au contraire offrir une perspective nouvelle et ouverte. Donc, le quatrain, au point de vue architectural, est un temple en miniature en soi. Et donc, facile à retenir. Ça, c'est important. En sorte que, en français, chacun de nous connaît des quatrains qui deviennent sa propre voix intime et en même temps un trésor commun, puisque nous pouvons réciter ensemble, hein, le premier quatrain français, le temps a laissé son manteau, hein, de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderies de soleil luisant, clair et beau. C'est exactement le temps que nous vivons en ce moment même, hein, à travers la fenêtre. Le soleil apparaît qui chasse la voiture. C'est le temps de maintenant. Donc, ce Charles d'Orléans nous offre ce trésor qui, à première vue, est un peu simple, un peu candide, un chant. En réalité, ce chant, ce quatrain, est plein de subtilité, plein de fraîcheur, faite d'images, de couleurs, de musique, et de sensations, parce que le manteau et la broderie sont des choses qui nous épousent intimement le corps. Hein. Donc ce temps extérieur, on le ressent à même notre corps intime. Hein. Donc il y a cette sensation qui est là. Par la suite, bien sûr, il y a toute une suite de quatrains que tout le monde connaît. Hein. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, et les retrouver, quoi, l'éternité. Et tout ça, c'est. On ne mesure pas l'action de quatrain qui, sur notre imaginaire, sur notre sensibilité. D'ailleurs, tout récemment, j'ai encore lu un quatrain de René Char. Nous sommes ingouvernables, le seul maître qui nous soit propice, c'est l'éclair qui tantôt nous illumine et tantôt nous pourfend. Donc moi je me rattache finalement en fin de vie, hein, à toute cette tradition qui depuis Maurice Sèvres jusqu'à René Char incarne cette lignée de poètes qui travaillent dans le diamant, en passant par Racine, La Fontaine, et puis tout au long du XIXe siècle. Mes dieux sont Nerval, c'est Baudelaire, c'est Rimbaud, c'est Mallarmé, c'est Verlaine aussi. Et puis, bien sûr, il y a Apollinaire. Et puis au XXe siècle, j'ai entretenu de grandes amitiés avec Michaud, et avec René Char aussi. Donc là, ce sont de très grandes références pour moi. Hein. Donc, je le répète, en fin de vie, je m'aligne résolument à cette grande lignée de poètes, oui, qui incarne le génie de la langue française, hein, je le répète, oui.
Alors justement, vous parlez du génie de la langue française, vous parlez de ces références-là françaises, et vous aviez évoqué tout à l'heure l'importance du quatrain dans la tradition poétique chinoise. Qu'est-ce que cette tradition-là, donc française, hein, que vous venez d'évoquer, que vous venez de citer, est venue apporter, ou est venue même vous faire comprendre de la poésie chinoise?
Bien sûr, il y a une grande, immense poésie chinoise qui est ma matrice, hein, qui me fournit le chant, les images, les thèmes. Mais par la suite, comme vous l'avez dit, mon destin a connu un bouleversement radical. Hein. Donc je suis venu en France, j'ai embrassé la langue française et cette langue m'a procurer cette distanciation nécessaire. Je ne parle pas de distance, hein, distanciation, c'est-à-dire d'envisager les choses en surplomb, parce que j'ai connu un accomplissement tardif. Hein, j'ai mis 20 ans ou 30 ans pour apprendre, pour essayer de maîtriser cette langue. Et donc, cette langue qui m'a coûté tant d'efforts, est devenue ma chair et mon sang. Et donc, je vis intimement et intensément cette qualité de concision, de condensation, de cristallisation qui me permet, qui m'oblige même à dire des choses essentielles, de rester dans les purs.
Est-ce que ce caractère-là ramassé, concis, cette distance-là a eu un impact sur votre propre langue chinoise, François Cheng?
Bien sûr. Tout à l'heure, on a évoqué ma rencontre avec Lacan, donc au début des années 70. Mais tout au long des années 50 et 60, à ce moment-là, ne maîtrisais pas bien le français, je me suis adonné à la traduction de la poésie française en chinois. Ça a été une éducation extraordinaire. J'ai traduit tous les grands poètes, hein, depuis Hugo jusqu'à René Char. Et donc, ça m'a permis d'affiner ma propre langue chinoise et en même temps de pénétrer les secrets de la langue poétique française.
Hein. Est-ce que choisir le quatrain, puisqu'on en revient à lui, François Cheng, choisir le quatrain en 1958, hein, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, et le choisir maintenant, est-ce que c'est le même geste, hein, pour vous?
En gros, c'est le même geste, mais je pense que j'ai, durant 60 ans, j'ai quand même approfondi ma vision de la vie. Parce que je suis devenu presque un occidental, hein, un chinois occidental. Donc, toute cette grande tradition poétique et philosophique m'ont éduqué et transformé. Donc, par rapport à mon premier quatrain, je pense avoir élevé davantage mon niveau de regard et puis la manière d'appréhender le mystère de notre destin au sein de l'univers vivant, oui, je crois, oui.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire quelques-uns, François Cheng?
Au bout de la nuit, un seuil éclairé nous attire encore vers son doux mystère. Les grillons chantant l'éternel été. Quelque part, la vie vécue reste entière. La faim est notre lot, force nous est endurée. La soif est notre lot, force nous est de durer. Consent à la brisure, c'est là que germera ton trop-plein de crève-cœur. Que passera un jour, à ton insu, la brise? La mort qui rend tout unique et l'unique accès à la transformation. Face à elle, on laisse tout, ne gardant que ce que Dieu même ne peut remplacer, l'amour inachevé d'une âme singulière. Ne quémande rien, n'attends pas d'être un jour payé de retour. Ce que tu donnes trace une voie te menant plus loin que tes pas. Et puis pour terminer, c'est encore, je rejoins mon chant initial. Nous avons bu tant de rosée en échange de notre sang, que la terre, 100 fois brûlée, nous sait bon gré d'être vivants.
Merci. Merci François Cheng. Alors peut-être, il faudrait peut-être que j'ajoute, puisqu'on ne peut pas vous voir, que vous faites lecture en ayant vous-même recopié vos propres quatrains, c'est-à-dire que vous faites lecture non pas à partir du livre, mais à partir de textes écrits de votre main, donc doublement écrits de votre main, d'une certaine manière. Si l'on se met quelques minutes à votre table de travail, François Cheng, comment vient le quatrain? Est-ce que, qui est quand même un poème où chaque mot est exactement à sa place, hein, est-ce qu'il vient d'un seul souffle, ou est-ce qu'il vient en s'épurant jusqu'à ce que vous appelez le diamant?
Je suis un lent. Hein. D'abord, je suis un tardif. Quand j'ai publié mon premier livre, l'écriture poétique chinoise, j'avais 50 ans. Mes recueils de poèmes publiés chez Fata Morgana, c'est 85-86. Et puis mon premier roman, Le Dit de Tianyi, j'avais 69 ans, presque 70 ans. Donc, je suis un tardif. Et puis, je suis un lent, très lent. C'est pourquoi, devant le micro, devant vous, je me sens un peu désemparé parce que les paroles viennent difficilement. Bon, alors donc, pour mes quatrains, ça a l'air simple d'arriver au résultat. C'est des dizaines. Aujourd'hui, je ne vous ai pas apporté mes manuscrits.
J'allais vous demander à quoi ressemblent vos manuscrits.
Des dizaines de versions. Vous m'avez dit que à votre table de travail, en fait, je ne travaille jamais sur une table de travail parce que j'ai peur, toujours peur de faire face à la page blanche. Donc, c'est toujours en me promenant ou dans des salles d'attente. À des heures de désœuvrement complète, tout d'un coup, un thème vient ou un vers vient. Et à partir de là, je travaille. Je travaille nuit et jour. Souvent, c'est la nuit, c'est-à-dire quand le vers est là, il n'y a plus de repos possible. Hein. Je suis obsédé. Donc, il faut absolument que j'aboutisse à quelque chose. Donc, comme j'ai le sommeil léger, donc la nuit, quand je me réveille, alors je retravaille mentalement le vers. Souvent, d'ailleurs, quand tout d'un coup, cette accumulation de vers devient chant, c'était un moment de intense, je sens que le chant est là, qu'on ne peut plus changer un mot. Et là, souvent, je me lève très tôt pour aussitôt de peur de oublier. Donc, c'est un combat avec l'ange. C'est une obsession. Donc, vous venez de dire que le dernier recueil contient presque plus de 150 quatrains. il ne s'agit absolument pas du remplissage. C'est vraiment chaque quatrain est né d'une nécessité impérieuse, c'est-à-dire de questions de vie et de mort hein, pour moi. Je sentais que avant de mourir, parce que la mort peut survenir maintenant à tout moment, donc je sens que avant ce moment, il faut absolument que j'arrive à ce quatrain-là. Éventuellement, on inscrit ce quatrain sur ma tombe, à tel point que ma femme finalement me dit, mais sur ta tombe, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, c'est encore, nous avons bu tant de rosée. J'ai dit oui.
Le quatrain de 1958.
Probablement maintenant, oui.
Vous écoutez France Culture, Poésie et ainsi de suite, par Manu Farine.
Alors pardon, François Tcheng, de désarticuler l'harmonie de ces quatrains, mais au gré de la lecture, et je pense en particulier au premier quatrain, à la première série de quatrains, les vers disent « Nous avons bu tant de rosée », disent « La soif est notre lot, à bout de soif, une gorgée d'eau, ou encore toute la soif étanchée, midi de faim, de soif, tes cheveux d'ambre, tresses, etc. » Et je me demandais de quoi cette soif répétée, revenu en permanence, était l'expression.
Parce que tout à l'heure, j'ai dit que la faim est notre lot, force nous est d'endurer. La soif est notre lot, force nous est de durer. Parce que la faim est une épreuve terrible pour beaucoup de monde. Mais la soif implique la quête. Bien sûr, j'ai connu la soif, parce que pendant la guerre, on s'est réfugié au fin fond de la Chine. C'est un climat continental. L'été, la chaleur peut monter jusqu'à 40 degrés. Et à l'école, notre table est brûlant. On met la main sur la table et aussitôt on transpire. Hein. Donc, au Sichuan, c'est la grande province, on a connu la soif parce qu'on faisait des randonnées dans des grandes vallées. On a connu la soif. Et puis tout de suite après la guerre, on a fait une expédition vers l'ouest. Et on s'est perdu dans une région désertique. J'ai connu vraiment une soif presque mortelle. Et puis, c'est pourquoi, une fois arrivé en Europe, Rimbaud, tout le monde connaît le bateau ivre, ses autres poèmes. Moi, j'étais épris d'une série de poèmes de lui intitulés « La comédie de la soif ». Je me suis identifié à Rimbaud, à ce Rimbaud-là. Et maintenant, pour répondre à votre question, c'est-à-dire la soif est devenue un thème majeur, c'est-à-dire la satisfaction de la soif, bien sûr. C'est ce que Gide, d'ailleurs, a chanté. La soif étanchée, mais pour moi, il n'y a pas d'étanchement possible. La soif est une quête, c'est-à-dire qui maintient notre destin ouvert. D'ailleurs, en français, on dit la soif de connaître, mais pour terminer, c'est quand même la soif de communier avec les êtres. Donc, je reviens à mon thème initial, la vérité. Ce n'est pas... Parce que l'humanité est passée par beaucoup de idéal, mais maintenant on a compris que la vérité n'est pas dans la puissance absolue, ni dans l'idée absolue. Comme Hegel l'a imaginé, mais pour moi, hein, c'est encore une fois dans l'amour absolu. Hein. On est sur la voie. La pensée chinoise est marquée par la voie, l'idée de la voie, c'est-à-dire notre destin humain et terrestre est relié à une aventure beaucoup plus vaste et plus pérenne. C'est l'aventure de la vie même, une vie au majuscule. Et donc, du côté de l'Occident, moi, personnellement, vous n'êtes pas obligé de retenir ma phrase, c'est quand même celui qui a prononcé la voix, les trois V christiques. Hein, je suis la voix, la vérité, la vie. Et cette voix-là est incarnée par l'amour absolu. Pour moi, c'est... tout à l'heure, vous me demandez comment je réunis les deux héritages chinois. Et moi, je dis, c'est dans la notion de la voix, qui est une quête ouverte. Donc, la voix taoïste et la voix christique en moi, oui.
François Cheng, ce que vous venez de dire peut faire écho, évidemment, à une autre voix, celle-là, V-O-I-X, ou une voix aussi, V-O-I-E, qui compte pour vous, qui a compté pour vous de manière décisive, et cette voix, c'est celle-ci.
Oh, Signore, fa di me uno strumento della tua pace, dove l'odio fa che io porti l'amore, dove la discordia fa che io porti l'unione. Dove il dolore fa che porti la gioia e fa che porti la speranza, dove la disperazione. Oh maestro, fa che io non mi preoccupi tanto di essere amato quanto di amare e che tutti conoscano sopra la terra il segreto della tua pace, che è il frutto della giustizia e della carità fraterna. Cantate un poco più piano, più piano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Fratellini miei uccellini, voi potete lodare il Dio molto facilmente perché avete libertà di volare e tutta la purità dell'aria per voi. Adesso lasciate che possa lodarlo anch'io molto tranquillamente. Sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Così. Un extrait.
C'est formidable, vos choix, c'est impressionnant tout ça.
Merci.
Tous les choix sont...
Merci, c'est un extrait d'Éonce Fioretti de François d'Assise, hein, le film de Rossellini sorti en 1950. Donc ici, c'est la fameuse scène qu'on a entendue, hein, la fameuse scène des oiseaux qui voit François prier et parler aux oiseaux en même temps. Assise, à qui vous avez consacré un texte, hein, il y a peu. Et pourtant, ce qui vous lie à lui remonte à une cinquantaine d'années maintenant, peut-être 55 ans, hein, puisque c'est en 61 que vous vous rendez peu enthousiaste, hein, il faut dire, à Assise, et que cette expérience-là va probablement tout changer pour vous, hein, en tout cas la rencontre avec le lieu, puis la rencontre avec François, au point même que votre prénom, François Cheng, sera choisi en 71 à un moment de votre naturalisation, en lien avec François d'Assise, hein, celui qui chante l'eau et le feu. Est-ce qu'on peut voir, au fond, dans cette figure-là, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire justement ce lieu de réunion ou de réconciliation qui passerait par la voix, ce dont vous avez parlé, François Cheng, juste avant qu'on diffuse cet extrait.
Parce que François d'Assise, c'est vraiment la figure la plus universelle que j'ai rencontrée en Occident. Notre langage nous permet de communiquer avec nos semblables, mais aussi avec la part divine qui est en nous. Il faut admettre qu'il y a une part insondable, mais divine en nous. C'est une potentialité, mais nous ne pouvons l'exploiter que par notre voix, V-O-I-X, et par là d'atteindre la V-O-I-E, qui est ouverte, hein, qui est le grand ouvert, oui.
Je voulais revenir à cette soif, François Cheng, dont vous parliez tout à l'heure, puisqu'on parle de soif. Soif, voilà, c'est comme le vide, hein, ça attend éventuellement d'être rempli. Donc soif qui pourrait éventuellement attendre le flux ou l'eau ou la source ou ce qu'on voudra, et qui pourrait être comme un écho, au fond, à une musique qui souvent vous accompagne. On l'écoute. Mmh.
manche Tränen aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee. Seine kalten Flocken saugen, durst ich ein das heiße
Flut, autrement dit inondation, hein, l'un des 24 leaders qui composent le Winterreise de Schubert, interprété ici par Hans Hotter. Qu'est-ce qui résonne en vous, François Tscheng, à l'écoute de Schubert et des Winterreise en particulier, et j'allais même dire de la voix en particulier de Hans Hotter?
C'est un des plus grands, oui. Finalement, Winterreise, il faut que ce soit chanté par un Allemand. Parce que il y a la musique et le génie de la langue, hein, ces mots-là. Et, je suis d'autant plus sensible parce que je suis un baryton, hein, donc j'ai pratiquement la même tessiture que celle de Hotter ou de tous les grands barytons.
Vous chantez?
Je chante, oui, mais modestement, à ma manière. C'est, il n'y a aucune prétention de ma part. Mais c'est pour souligner cette affinité. Vous touchez là un point sensible de ma part parce que, au début de mon séjour en France, dans ma grande solitude, j'écoutais beaucoup les leaders allemands et les mélodies françaises aussi. Faute de pouvoir parler correctement la langue française, je parle de cette période des années 50-60, j'écoutais beaucoup de mélodies françaises et de leaders allemands, dont justement Schubert, et Schumann et Schubert, et je connais la Belle Meunière et puis le Winter, le Voyage d'hiver presque par cœur. Maintenant, je commence à oublier. Donc, vous touchez là vraiment un point sensible. Et Schubert, bien sûr, c'est mon frère. Dans le Winterreise, tout d'un coup, il est allé creuser dans la profondeur de l'âme humaine d'une manière indépassable. Je crois qu'aucun compositeur n'est capable d'aller aussi loin que lui, même maintenant, avec tous les drames que nous avons vécus. Il a sondé tout cela. C'est... tout ce que j'ai pu dire, hein, au sujet de Rother ou de Schubert, hein, c'est un peu au-delà des mots, comme des mélodies d'ailleurs. C'est un peu ça touche un peu l'indicible pour moi. Schubert reste le grand frère. Beaucoup de gens disent à ma mort, j'aimerais entendre Mozart ou Bach. Moi, c'est Schubert, oui.
Qu'est-ce que vous chantez, François Cheng, quand vous chantez? Est-ce que vous chantez à des moments précis, particuliers?
Je chante naturellement. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, je chante des mélodies à moi. Quand je suis dans la nature, je me mets à chanter, non une mélodie connue, mais maintenant, non. En vieillissant, je n'ai plus la voix. Mais autrefois, je chantais à moi-même. Comme ça, des mélodies qui jaillissaient comme ça, oui. Ça, c'est un coin secret, hein, que personne ne connaît, mais vous m'avez permis de le dire, oui.
Je vous en prie. Je voudrais peut-être juste terminer en restant, François Cheng, toujours sur ces quatrains, hein, qui viennent de paraître. Au fil des pages, au fil de ces quatrains, ce qui frappe, même si ça n'est pas la première fois, ce qui frappe, c'est évidemment le fait qu'il y soit beaucoup question de « tu », de « vous », de « nous », d'impératif, et évidemment, à peine du « je », alors à l'exception d'un ou deux, hein, je pense à un en
tout
particulier,
oui.
Qui dit « tout d'un coup, je dis « tu
oui. »,
sachant que tu es là,
oui.
Le clair val s'étant « tu », ne sentant que moi, toi ». Qui est donc l'un des quatrains où le jeu apparaît. Encore, c'est un jeu qui vient s'imbriquer, s'articuler au toi. Et je me demandais, sur cette question du jeu, qui au fond est une vraie question pour vous, est-ce que cette question-là n'était pas aussi le nœud, au fond, de ce passage permanent d'une culture à l'autre, en tout cas d'une philosophie occidentale à une philosophie orientale et inversement? Est-ce qu'au fond, écrire en français, est-ce que c'était ça aussi pour vous, c'est-à-dire faire entrer le sujet d'une certaine façon?
Vraiment, merci infiniment d'avoir remarqué cet aspect de la chose, oui. Vous voyez, dès mon premier quatrain, j'ai dit « nous avons bu tant de rosée ». Parce qu'à l'époque, donc j'ai quitté la Chine, j'ai épousé le destin collectif de toute notre génération, voyez le. Donc par la suite, entrer dans la tradition française, peut-être la conscience du jeu était davantage affirmée. Mais avec cette création tardive, j'ai à nouveau, du côté français, dépassé la seule conscience personnelle, c'est-à-dire le jeu, hein. Parce que je me définissais comme un poète de l'être. C'est-à-dire, à un moment donné, avec cet accomplissement tardif, j'ai dépassé le seul besoin de m'exprimer les sensations, les sentiments. À nouveau, je me suis élevé, hein, sans prétention, à cette mission de poète en tant qu'Orphée, c'est-à-dire de parler au nom du destin commun. Encore une fois, c'est à cause de l'évolution du temps, hein, que j'ai traversé. Donc, arriver à ce stade, c'est à nouveau le « nous » qui prime sur le « je ». Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de expérience intime, justement, notamment dans ce quatrain que vous avez cité. Hein, je n'arrive pas à réciter par cœur, mais j'étais très touché que vous l'ayez cité.
C'est tout d'un coup, je dis tu, sachant que tu es là, le clair val s'étant tu, ne sentant que moi, toi.
Tout à fait. Mais toujours est-il que cet aspect intime et secret reste, mais en même temps, je le répète, je sens ce besoin de parler au nom de l'humanité souffrante. Hein.
Alors j'ai pour habitude de laisser les invités, à la fin de l'émission, prolonger la discussion entre eux et sans moi. Alors cette fois c'est un peu particulier, puisque si je m'en vais, je vous laisse seule. Hein. Néanmoins, je vous laisse fermer la porte de l'émission, comme vous le souhaitez, en vous laissant les dernières minutes. Bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
C'est pas de 20 mots, parce que j'ai passé un moment quand même exceptionnel, en communion avec vous. Hein. Nous sommes quatre. Hein. Je suis un solitaire. Je connais un large secte de lecteurs. Je reçois des lettres tous les jours et je communie avec des âmes inconnues. Mais moi-même, je suis un solitaire. Et puis, à cause de mes conditions de vie, j'ai à charge ma propre santé et celle de ma femme. Donc, je suis un solitaire. Mais par contre, donc, je suis particulièrement sensible à ces moments de communion avec vous, parce que, et puis tous ces choix de paroles et de musique, tout d'un coup, me paraît, comment dire, hors temps, puisque ça me fait rejoindre presque tout mon histoire ancien. Donc, tout cela est un seul tenant maintenant, en un instant même, hein, qui est le, comment dire, le sens même de l'éternité, hein. L'éternité ne peut être saisie que dans l'instant. Hein, et c'est, et même dans ce qu'on imagine comme éternité, c'est pas un étirement comme ça. C'est toujours l'élan vers la vie, donc dans l'instant même, oui. Donc, je dis maladroitement, hein, mais c'est ce que je ressens exactement, oui. They're marching clearance with the beat forever in our mind. It gives us hope, it gives us strength, you know, to carry on. Keep at it till the end, and past the end you will be strong. Truly, to keep the world from dying, it's time. Truly, to spread the love you share.
Poésie et ainsi de suite, c'est vendredi prochain, même heure. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Arthur Gerbeau pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Merci à François Cheng. Vous trouverez toutes ces actualités sur le site de l'émission à réécouter ou podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.